Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, on est de retour pour le dernier épisode de Falcon and Winter Soldier. C'est peut-être un épisode qui va nous occuper pendant un petit moment, si on veut détailler tous les trucs qui se sont passés. Je ne sais pas si on va faire plus long que l'épisode encore une fois. Comment ça va, Johan? T'es en forme?
Alors, ça va super bien, je suis en forme et surtout, je suis toujours en week-end, donc
merveilleux. Voilà. Moi, je suis Patrick et je suis en week-end un petit peu éternel en ce moment, mais avec l'astérisque qu'il y a quand même une petite fille en plus de mon petit garçon qui est arrivée et donc elle crie souvent, elle a du mal à digérer, donc elle nous fait passer des nuits courtes, mais ça ne nous empêche pas de nous concentrer sur l'important, et quand je parle de l'important, je ne parle évidemment pas du bonheur d'avoir un deuxième enfant, mais du dernier épisode de Falcon and Winter Soldier. Johan, est-ce que ce season final, ou ce série finale peut-être, t'a convaincu, t'a plu, t'a satisfait ?
Cet épisode m'a plutôt convaincu, je mets des guillemets parce que bon, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé quand même ça en dessous, plutôt en dessous du reste de la série. Donc voilà, je trouve que tout est un petit peu, tout va vite, on résout un peu toutes les intrigues. C'est un peu la reproche qu'on avait fait aussi pour WandaVision, avec moins de déception quand même ici, mais voilà, on clôture un peu tout un peu rapidement. Je suis pas super convaincu par tout, enfin notamment par,
on va y venir. Est-ce que tu es en train de dire que tu es extrêmement déçu qu'on n'ait pas vu Mephisto dans la fin de Falcon and Winter Soldier?
Je suis sûr que Val était Mephisto.
Ah, Damned. On ne sait pas, ça va peut-être encore arriver. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas autant, tu dis autant de déceptions que dans WandaVision. WandaVision, il y avait des déceptions sur les films qu'on s'était fait nous-mêmes en tant que fans, mais la fin, comme on l'avait dit, vous pouvez aller réécouter d'ailleurs, était quand même hyper satisfaisante émotionnellement. Là, sur celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, un petit peu comme on l'avait dit la semaine dernière, la bagarre au début, qui était bon, voilà, il y a la bagarre, ok, pas de problème. Et après, il y a eu quand même un petit moment qui était convaincant et on va en reparler. Mais peut-être qu'on peut commencer par la bagarre, justement. Mon impression sur cette grande scène de combat, c'est que on parlera de la conclusion, de la du closure de chaque personnage après, mais d'une manière générale, sur le combat, c'était pas aussi bien que la série des films, c'est-à-dire que la série des films Captain America est toujours hyper bien chorégraphiée. Les combats sont très satisfaisants, il y a des utilisations hyper intéressantes des pouvoirs, le bouclier est intéressant, la manière dont Steve Rogers saute partout et se bat est hyper bien filmée. Bref, les scènes de combat sont vraiment un plaisir à regarder, je trouve, dans les Captain America. Là, c'était plus des combats classiques, c'est-à-dire tu sens que sur le script, c'est écrit il y a un combat entre Batroc et Sam Wilson, et Sam Wilson s'enfuit à la fin par la fenêtre. Et voilà, ils n'ont pas forcément cherché plus loin. Ça va, ça passe, mais c'est pas non plus un truc où tu dis « Waouh, c'est un truc de super-héros cool, quoi ». Donc, bon, voilà, ça va, c'est niveau série, on va dire, niveau bonne série. On va dire ça comme ça. Niveau série,
ouais, moi j'ai l'impression que comme tu disais, ça manque un peu de chorégraphie et un autre problème de cette longue séquence, c'est que chaque personnage est un peu dans son coin. Il n'y a pas vraiment d'interaction nous on ressort d'un combat, je crois que c'est l'épisode précédent entre Bucky, Sam et contre John Walker. Où là, pour le coup, je trouvais que c'était super bien chorégraphié. Il y avait vraiment pas mal d'interactions. Là, effectivement, c'est un peu chacun dans son côté. On vient, on se tape un peu, on s'en va, on fait autre chose. C'est un peu la partie bagarre est assez décevante. J'ai bien aimé la partie en hélico. Enfin,
ouais, ça c'était pas trop mal.
Voilà.
Quand Red Wing va repérer la pilote malaisienne.
Nuit, c'est pas super bien mis en avant. Enfin, donc effectivement, cette partie-là est un peu décevante, mais elle fait le taf. Elle reste relativement efficace.
Ouais. C'est correct, mais il y a quand même des trucs importants qui se passent. C'est la première apparition de Sam Wilson, Captain America, dans son costume wakandais, mais vraiment aux couleurs des couleurs des États-Unis et les couleurs qu'il a dans le comics. C'est là encore une recréation très fidèle du matériau d'origine. J'ai trouvé qu'il n'était pas assez... J'aurais aimé que ça soit genre... Et puis tu vois, il arrive et c'est genre un petit peu plus en contre-plongée. Oh, c'est lui ! Mais bon. Et il arrive et il dit « Mais attends, t'es qui ?» Et il dit « Captain America ». Genre, il n'y a pas de doute. Fuck you, je suis Captain America. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Donc, tout de suite, il s'impose. On va prendre les moments un par un. Ça t'a plu, l'arrivée de Sam Wilson, Captain America ?
Alors, je ne suis pas fan du costume transposé là en... En réaliste, il est identique à son costume du comics. Dans le comics, je trouve que ça passe, et là, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression que justement, on se rapproche de là où le MCU s'était éloigné le plus possible, c'est-à-dire d'avoir cet effet-là un petit peu à la limite, en fait, un peu, je vais dire du ridicule, c'est peut-être un peu fort, mais un peu à la limite. Du ridicule sur ce côté-là. En plus, quand tu sais d'où vient le costume, ça, j'ai un petit peu pouffé de rire parce que j'ai essayé d'imaginer comment est-ce qu'ils avaient designé le costume au Wakanda.
C'est vraiment genre. Alors attends,
je
vais pas essayer de faire l'accent wakandais, mais c'est genre. Alors attends, les Américains, ils aiment bien les étoiles, genre on met un petit peu plus de blanc, rouge et bleu, c'est ça ? Ouais, ok, d'accord, vas-y. Par contre, il s'intègre parfaitement avec les ailes. Il y a un moment où il se fait genre en cocon avec les ailes et le bouclier au-dessus, et c'est parfaitement intégré pour protéger.
On sent que le costume est réactif. Je sais pas si c'est lui qui le contrôle, mais les ailes qui se plantent dans le sol pour tenir le choc, etc. C'était
cool.
C'était top, ça.
Ouais, il y a eu deux ou trois moments quand même un peu sympas. Il a deux Red Wings, ce qui est assez sympa. Donc ça, c'était relativement cool. On va continuer parce qu'on va arriver à la conclusion des arcs des personnages, mais continuons. Le deuxième moment, je pense, c'est peut-être au-delà de Bucky qui se bat et Sharon qui est révélée être le Power Broker dont on va parler dans une minute en plus. Il y a évidemment le moment où John Walker fait son choix, en fait, se réveille, et tout est pardonné. Allez, c'est pas grave, j'ai fait. Mais il y a quand même ce moment où il doit choisir, qui était correct, où il doit choisir. Soit il continue vers la vengeance, soit il choisit d'être un héros et de sauver les gens. C'est soit je dois tuer des gens, soit je dois sauver des gens après le combat.
Et on précise,
avec...
c'est même sauver les gens qui l'ont discrédité, quoi. C'est tous les sénateurs là qui avaient décidé de son du fait qu'il soit plus Captain America, de le renvoyer sans rien, etc. Donc ça rajoute, on va dire, une couche.
C'est ça. Et en plus, Carly a cassé son bouclier factice, là, son petit bouclier jouet. Et donc, vraiment, c'est le moment du choix. J'ai trouvé ça pas mal, même si après, tout à coup, il est quand même super content tout de suite. Tu vois, c'est genre, youhou, allez, je suis gentil maintenant.
Je trouve ça un peu dommage parce que... Ouais. Alors, moi, c'est ce que j'avais imaginé pour ce personnage. En fait, quand j'en avais parlé avec des copains de ce personnage-là, en fait, suite justement à sa vengeance directe juste après la mort de Battlestar, je m'étais dit, il va se rendre compte, parce qu'on montre quand même que c'est quelqu'un qui a des fondamentaux, on va dire, bons, à plusieurs reprises. Il y a quand même pas mal d'emphase là-dessus. Il se pose des questions s'il doit prendre le sérum ou pas, donc il en parle à son pote, etc. Enfin, tu vois, on montre qu'il n'est pas vraiment à la recherche complète de pouvoir et tout ça.
Il a une certaine moralité, voilà, il a une certaine droiture.
Et du coup, moi, je m'étais dit que justement, suite à son premier meurtre du Flag Smasher, il allait du coup se rendre compte qu'il était allé trop loin et qu'il allait du coup potentiellement rendre le bouclier à Sam et dire bah non, je suis plus digne d'être Captain America, tu vois. Je pensais que ça allait partir sur cette voie-là et du coup, je trouve ça dommage qu'il soit allé du coup sur un truc vraiment la pente complète avec justement sa colère qui est montrée, le fait qu'il le fait de se refaire un costume de Captain America, ça faisait vraiment très très dérangé, quoi. Et du coup, de le voir revenir tout d'un coup dans l'autre sens, je trouve qu'ils étaient allés trop loin, en fait, dans la caractérisation, on va dire, négative du personnage pour le faire revenir comme une fleur. Et puis après, en plus, tout va bien, quoi. Et il est super pote tout d'un coup avec Barnes, enfin, tu vois, c'est...
C'est ça, ouais, c'est vraiment... Ok, c'est bien, tout va bien.
Il
se tape
dans l'épaule et tout, tu vois...
Et c'est vrai que ça aurait pu être hyper intéressant d'avoir justement ce Captain America entre deux, et c'est ce qui va être a priori le personnage de US Agent, mais de l'avoir un petit peu, tu vois, il choisit quand même de sauver les sénateurs, mais ça veut pas dire que tout à coup tout est cool et tout le monde est gentil, tu vois. Il aurait pu rester genre un petit peu hargneux, un petit peu renfrogné, un petit peu énervé contre ce système qu'il a coulé, estimé qu'il a été trahi, tu vois.
Derrière, quoi. Il aurait pu, tu vois.
Il aurait pu essayer de sauver les sénateurs et puis après continuer à courir après.
C'est ça, continuer sa vengeance. Ouais.
J'ai bien aimé le fait que justement il n'y a pas de super combat entre les derniers qui restent et Bucky et machin. C'est genre, on a utilisé l'app, elle est cool. C'était un bon petit subverting expectations, je dirais. Mais par contre, bon, la citation de Lincoln, c'était un peu genre, ok, d'accord. Ça, disons que ça ne me gêne pas, mais le personnage, du coup, il est parti en cacahuète pendant vraiment 5 minutes. C'était le post-générique de l'épisode dernier. Et là, au bout 20 minutes d'épisode, ça y est, il était revenu super, super gentil, super cool, en tapant sur l'épaule de Barnes, effectivement. Donc, je suis d'accord. Et puis, le dernier personnage, c'est le Power Broker, donc Sharon Carter, dont on confirme que t'es bien le Power Broker. Il a une voix canadienne hyper bizarre, Batroc. Et du coup, elle lui tire dessus. Je sais pas si elle l'a tué, mais en tout cas, bon, j'imagine qu'elle l'a tué.
Moi,
parce
je suis parti du principe
qu'il
est mort.
Ouais, il est mort, je pense aussi, ouais. Et donc, peut-être qu'on peut garder les réflexions sur le Power Broker pour justement tous les personnages à la fin. Est-ce que... Ouais, à moins qu'il y ait des choses à ajouter sur le combat. Bon, voilà, le combat, ça se termine. Ah, non, mais je suis con. À la fin du combat, il y a le truc principal de l'épisode quand même, mais... On a fini avec la bagarre ?
Ouais, vas-y.
Du coup, il y a pour moi le moment le plus important de l'épisode, qui je pense est clairement le moment le plus important de l'épisode, c'est quand Sam Wilson arrive et dépose le corps de Carly Morgenthau. Peut-être qu'on peut conclure avec la mort de Carly sur l'arc des Flag Smasher que moi j'ai trouvé assez mal construit. Parce qu'au final, même si dans le discours de Sam, je trouve qu'il y a un truc qui le ramène au sujet de la série, j'ai trouvé que le personnage était mal construit et son mouvement était mal construit parce qu'à aucun moment, on nous montre pourquoi ils se battent, en fait. Ils disent « Ah, c'était mieux avant », mais ils nous montrent jamais. Sa mère adoptive, là, Donia Madani, on la voit jamais. On comprend pas pourquoi ils sont mécontents que les choses changent. On nous dit un petit peu un truc qu'on comprend, c'est genre... Attends, les gens qui habitent maintenant dans des maisons, d'autres personnes qui sont revenues, on comprend que c'est un problème compliqué, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, en quoi est-ce que le monde était meilleur pendant le blip pour eux, pour ces gens-là ? J'aurais aimé qu'on le voit plus pour qu'on comprenne pourquoi Carly et tous les gens qui la suivent sont aussi motivés. C'était un petit peu décevant, en fait, dans l'ensemble de la série, pour moi. C'est peut-être dû à la réécriture de dernière minute qui a fait sauter certaines scènes... parce qu'il y avait, comme on l'a dit à plusieurs reprises, un élément d'épidémie. Ils voulaient lâcher un virus, les Flag Smashers, et donc ils l'ont viré, évidemment, avec la pandémie pour des raisons évidentes. Mais je suis pas sûr que ça soit ça. À mon avis, c'était juste un truc un peu mal écrit, et c'est dommage parce que ça rend toute la série un petit peu boiteuse, parce que le méchant, on le comprend pas, il est pas solide. Donc ça, c'était un peu décevant.
Ouais, il y a un vrai problème de motivation. J'en avais parlé la dernière fois sur ces Flag Smashers. comme si on avait l'impression que les writers, attends, je perds
les auteurs.
Les auteurs, en fait, avaient décidé d'écrire un personnage. Ouais, ça va être un groupe anticapitaliste, écolo, machin, etc. Et en fait, ils ont aucune idée en fait de ce que peut vouloir en fait ce type de personnage-là. Et du coup, ils écrivent ce qu'ils imaginent, tu vois. Et du coup, ça fait que ces personnages-là, finalement, ils sont assez confus. On a l'impression que eux-mêmes, en fait, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire en fait avec ces attaques, avec ces avec ces éléments-là, on comprend qu'ils sont pas contents, effectivement, et on voit vaguement, effectivement, qu'il y a une histoire, effectivement, de frontières, enfin, de déplacement de population, etc. Mais on voit pas du tout où ils vont et ce qu'ils essayent de
D'accomplir. Pourquoi ils se battent? C'est ça le problème, c'est qu'on sait pas pourquoi ils se battent, pourquoi ils sont mécontents, qu'est-ce qui était mieux avant. Bref, bon. Donc Carly, c'est un petit peu décevant, mais j'ai trouvé que le discours de Sam, j'ai eu très peur au début. Quand il arrive, donc il dépose comme un ange Carly sur une civière, bon, je crois qu'elle est clairement morte, et il va voir les sénateurs et il va leur faire un petit discours, et j'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est hyper casse-gueule, un truc comme ça, ça peut sembler hyper neuneux très vite, comme l'expression neuneux d'ailleurs. Et en fait, j'ai trouvé, tu me diras si t'es d'accord, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, que c'était au final, ils continuent sur le thème social de toute la série, et il fait un discours, comment dire, c'est un discours qu'on entend régulièrement, hein, mais c'est genre, il faut faire attention pour, comment on dit, c'est un warning contre les populistes, en fait, c'est un warning anti-Trump, en gros, c'est l'explication de si vous prenez des décisions comme ça, si vous n'incluez pas les minorités, et je pense qu'il ne parle pas que des minorités visibles, qu'elles soient des minorités ethniques ou sexuelles ou de genre ou ce genre de choses, mais vraiment des minorités défavorisées, et il dit, mais au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus et ils font des trucs, et des trucs qui ne sont pas forcément hyper malins, comme par exemple Carly Morgenthau, mais il y a un sous-texte qui est pour moi à peine caché, comme l'élection de Donald Trump ou comme l'élection d'autres, alors évidemment il ne dit pas, mais d'autres populistes partout dans le monde. Et il est vraiment en train de dire, il faut que vous fassiez attention au welfare, au bien-être, pas que des gens comme vous, mais de tous les gens qui sont sous votre, comment dire, que vous êtes censé représenter, y compris les personnes de couleur, comme moi, et on l'a vu à plusieurs reprises dans la série qu'il était dans des situations compliquées, des personnes comme Carly, des personnes comme... Enfin, tous ces gens-là qui sont des minorités et auxquelles vous ne pensez pas et qu'on ne voit pas. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était un discours assez intéressant, un peu inattendu et qui passait au final, alors qu'au départ, je pensais que ça allait être hyper... comment dire, sirupeux et que ça allait pas fonctionner, que ça allait pas porter. Est-ce que toi, ça t'a aussi...
Alors moi, j'ai trouvé ça super neuneux.
Ouais.
Et très très naïf. Par contre, je te rejoins sur le fond du discours et c'est un discours qui est assez intéressant en fait, surtout en fait pour une œuvre américaine.
Ouais, mais grand c'est public, ça. Parce que américaine, parce Disney que... est très grand public.
Ouais, parce que ce que je veux dire, c'est que ce discours, parce que du coup, il y a l'association bah, que les Flaxmashers sont des terroristes. Alors, il écarte le mot d'un revers de la main, mais c'est quand même ce qu'ils sont. Hein, ce sont des terroristes. Et du coup, tu peux aussi étendre la réflexion aux terroristes de la vie réelle qui se font exploser, qui font écraser des avions dans les tours, etc. En te disant que ces gens-là sont dans des situations où ils sont suffisamment désespérés pour faire ce genre de choses-là, quoi. Et que du coup, il y a effectivement, il y a aussi un contexte qui les a mis dans cet état d'esprit-là et qu'il faut faire attention, effectivement, aux politiques qu'on mène. Et parce que du coup, il y a un impact sur la vie des gens qui, et si cet impact est vraiment dramatique, ça peut amener, effectivement, à des actes de désespoir, quoi.
Bah donc, ça marche pour toi, le discours, c'est ce qu'il
et
dit.
Et donc, non, le fond du discours, ça marche, mais. Si tu veux, c'est que je trouve que dans la réalité des choses, c'est que il s'adresse à des sénateurs, hein, ce sont quand même des politiciens.
Ah bah bien sûr,
ils savent,
oui.
qui savent parfaitement répondre à ce genre de choses-là. Et quand tu dis que ce genre de discours, on l'entend effectivement régulièrement. Il y a des gens qui élèvent ce type de discours. Hein. Moi, là, pour ce type de discours, un petit peu justement de confrontation, je pense à Greta Thunberg, qui a des mots, tu sais, qui est capable de faire ce genre de discours-là à des assemblées politiques. Et on voit bien, en fait, le type de réponse qui est en face, etc. Et tu vois, ce genre de discours dans un film, ça peut passer parce qu'effectivement, bon, bah, on donne une vision des choses, mais dans la réalité, c'est quand même assez naïf parce que ouais, les politiciens savent très, très bien répondre à ce type de...
Ouais, mais je crois que... Je suis d'accord, c'est pas comme si, tu vois, ça reste un film, enfin une série Marvel.
Ouais.
Et évidemment, c'est pas que je m'attends à ce que les politiciens, enfin, dans la réalité, les politiciens auraient dit non mais attends, c'est pas si simple, il y a ci, il y a ça. Et puis, ce qu'il dit d'ailleurs, mais on fait quoi alors? Les gens qui vivent dans les maisons, ouais, des gens qui avaient disparu, on les laisse? Il montre bien qu'il y a des vrais problèmes. Et oui, après, il reste un petit peu quoi, ils disent pas grand-chose. Dans la réalité, ça ne serait pas passé comme ça, on est tous d'accord. Mais je pense qu'il y a une force et une valeur au fait que Captain America, tu vois, dans la série, et même dans le contexte de, comment dire, dans le monde du MCU, et dans la série, dans notre monde, popularise cette idée. Et quand c'est... dans une série populaire comme ça que quelqu'un le dit, ça a un petit peu plus de portée encore que quand c'est dans un contexte uniquement politique, justement, où beaucoup de gens se disent « Ah, c'est bon, c'est que des conneries, c'est du politique », ou « Greta Thunberg, de toute façon, c'est une autiste débile », comme on l'entend parfois chez certains extrémistes, ou justement « Ah, les politiques comprennent rien et de toute façon, ils font jamais que de la merde et donc ça sert à rien ». Tu vois, ça prend un autre corps et c'est quand on passe des idées de militants presque, j'élargis un petit peu le discours, mais de militants qui sont balayés d'un revers de la main par une partie du public, quand ça passe dans la culture populaire justement et qu'on l'entend dans de l'entertainment, que ça peut commencer vraiment à avoir un impact pour moi. Les militants tirent la sonnette d'alarme, mais on l'entend pas jusqu'à ce que ça ait... percolé jusqu'à la culture populaire. Donc pour moi, il y a quelque chose d'important là-dedans. Et des gens qui... Alors, je ne suis pas en train de te dire « Ah, ça y est, le monde est éveillé, tout le monde est woke et donc on a tout compris, tu vois. » Mais je pense que c'est une petite pierre à l'édifice. Donc pour moi, c'est... Même avec l'aspect évidemment naïf d'un truc Marvel, d'une part, c'est surprenant pour un truc Marvel et un truc Disney parce que c'est quand même... naïf que c'est, et on va en reparler dans une seconde avec peut-être Azaïa Bradley, mais même si c'est naïf, il y a une part de, je vais peut-être pas dire de courage, même si on pourrait le dire, mais en tout cas d'inattendu de leur part, et puis il y a quand même une certaine valeur là-dedans, à mon sens. Mais...
Ouais, alors, comme je te disais, hein, sur le fond, je suis assez d'accord, et d'ailleurs, même en reparlant, ça remonte un peu dans mon estime, mais sur le moment, j'ai quand même trouvé ça un petit peu awkward, un peu naïf, un peu genre, hey, pourquoi vous êtes méchant alors que vous pourriez être gentil, tu vois, il y a un peu,
ouais, je comprends.
Là, et puis, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu de répondants, on va dire, de la part des sénateurs, et en fait, ils sont un peu tétanisés, ils écoutent.
Bah, alors, il faut, si tu veux prendre hein, le...
Quelle indignité, monsieur Falcon, je vous attaque en diffamation.
Le truc, c'est que si tu veux prendre dans le contexte de l'attitude d'un homme ou d'une femme politique, là, ils sont quand même... en face de Falcon, Captain America noir, avec toutes les caméras du monde pointées sur eux, qui vient de leur sauver la vie et qui vient d'arrêter les Flag Smashers, c'est quand même politiquement très, très compliqué de se lancer dans un discours indigné. À mon avis, même si on prend l'aspect politique, le sénateur, là, barbu, il a bien fait de fermer sa gueule à ce moment, tu vois. C'est pas, tu sors pas gagnant dans ce genre de confrontation. Donc, mais bon.
En tout cas, sur cette même séquence, juste pour ajouter, tu parlais des caméras braquées, il y a effectivement ça un peu en miroir de la scène où John Walker tue du coup un Flag Smasher. The world is watching, quoi. Tout le monde est là avec les smartphones. Et là, c'est un peu le cas aussi. Il y a tout le monde qui s'est attroupé autour et. Et il y a cette notion de ah, c'est Black Falcon.
Ouais.
Et
comment on l'appelle? On t'appelle Captain Falcon maintenant.
<C'est très bien. rire>
Ouais.
Voilà,
okay.
C'est...
Bon, et du coup, on peut avancer à la scène. Moi, je l'ai trouvé, là, justement, pour conclure, j'ai trouvé qu'il gagne un petit peu son bouclier de Captain America là-dedans et
ouais,
à
non,
la manière de Sam, tu vois. Là, tout à coup, c'est genre,
complètement.
Il est Sam, il n'est pas Steve Rogers, et bon, il a une certaine présence, quoi. Après ça, je crois que c'est la scène d'après quand on a il va voir Isaiah Bradley.
Alors avant ça, les Flag Smashers se font arrêter.
Ah oui, ils explosent.
On comprend quand même que le mouvement Flag Smasher est quand même assez répandu puisque un des soldats qui les met dans le fourgon prison pour les ramener ailleurs. Leur dit le
One World, One People.
Donc on comprend quand même que le mouvement, l'idée du mouvement persiste. Donc ça rejoint un peu le discours de Sam hein, où il disait qu'il faut faire gaffe parce que s'il continue à opprimer, à maltraiter, on va dire, ces populations-là, un Carly 2.0 finira par émerger. Et ce fourgon explose et on découvre que c'est le majordome de
Zemo
qui avait fait exploser le truc. Mmh. Et ça enchaîne justement sur le The Raft avec Zemo qui apprend la nouvelle
ouais, satisfait
à la radio.
Son petit sourire. J'ai bien aimé ce passage parce que ça montre que Zemo, en fait, quand il s'est laissé arrêter, bon, il en a rien à faire. En fait, il est tranquille, il est dans sa cellule, il a à manger, à lire, à boire. Il peut faire de toute façon tout ce qu'il veut, partout où il veut dans le monde. Donc ça ne change pas grand chose qu'il soit dans le Raft ou pas. Et puis, on a du coup, ils se sont débarrassés de tous les super soldats, à part US Agent. Et on peut parler de ce passage maintenant. Il y a Valentina, machin de Fontaine, que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, avec ce truc un petit peu vraiment rigolo. Ouais. Est-ce que c'est donc notre ami Zemo a eu le dernier mot. Ça aurait pas mieux marché si c'est moi qui l'avais orchestré. Hein. D'ailleurs, peut-être que je l'ai fait. Non, je décode, je l'ai pas fait. Ou est-ce que je décode? J'ai trouvé ça très bien. Elle l'avait très bien joué, quoi. Par contre, j'ai pas du tout aimé le fait qu'elle l'appelle US Agent. Ça va trop vite là encore.
Ouais. Alors tu vois, alors ça c'est assez fou parce que. J'ai un peu des flashbacks de Vandavision. J'ai l'impression que dans ces séries-là, on part vachement plus dans le name dropping là. On fait un espèce d'effet sur le nom. Tu sais, la première
And
fois que le nom est prononcé, c'est important.
US Agent. Et là,
voilà,
tu t'attends à ce que tous les spectateurs disent « Oh mon Dieu !» Ouais,
donc,
je suis d'accord.
C'était pas forcément bien amené, ouais. Et ça faisait un peu fan service pour fan service parce que finalement, ça aurait pu arriver plus tard. Pas non plus, tu vois, c'est pas non plus super important que le vrai nom soit mentionné ici particulièrement, quoi. Il y a pas de.
Ouais, c'est ça. Il aurait pu exister pendant plusieurs séries, plusieurs films même. Et puis au bout d'un moment, l'amener d'une manière. Ils ont toujours été très intelligents sur la manière dont ils ont. Amener les noms des super-héros, même les plus ridicules, et ils auraient tout pu avoir un sénateur ou un ministre ou un président qui dit « Bon, il faut nous appeler notre agent des États-Unis, là, notre US agent ou un truc,
voilà,
et puis là,
ça.
Il arrive et ça serait très bien passé, quoi. » Là, c'était vraiment dommage de le gâcher, là, je trouve. Et puis lui aussi, qui se met à danser presque, genre « Oh, I'm back, baby, I'm back !» C'est genre « Mais un peu de contenu, monsieur John Walker, quand même. » Un peu de retenue, un peu de sobriété. Et donc, du coup, on va laisser Isaiah Bradley pour la fin. Il y a Bucky qui va voir son ami Nakajima, enfin son ami, son pote Nakajima. Et là encore, j'ai trouvé qu'ils en faisaient trop. Tu vois, ils auraient pu juste montrer, il ouvre la porte et il est hyper, comment dire, il est hyper, il a peur, Bucky, mais il y va quand même. Et puis, il voit la photo du fils. Et puis après, on aurait pu passer directement à la scène du restaurant où il est, tu le vois, un petit peu soulagé, le vieux. Je trouve que c'était pas nécessaire de voir toute la scène où il dit « Ton fils a été assassiné par moi, ouais. quand j'étais le soldat de l'hiver. Mais maintenant, je suis plus le soldat de l'hiver, mais c'est pour ça, tu comprends ?» Et tu, pff, c'était un petit peu trop.
Quoi. Ouais, la scène, à mon avis, elle était compliquée à rendre bien, à filmer. Et ils auraient gagné à être un peu plus subtil, comme tu le dis.
Bah, pas la montrer, quoi.
De toute façon, on se doutait bien de ce qu'il allait faire. Je pense qu'on n'avait pas besoin de l'expliciter à l'écran, mais bon... C'est une toute petite scène après.
Ouais, ouais. Non, c'est juste que c'est la conclusion de l'arc de Bucky, je trouve, et elle aurait pu être un peu plus.
Et pour le coup, je trouve que la scène où il renvoie du coup le carnet à sa psy marche beaucoup mieux, quoi. Finalement, on aurait pu montrer justement qu'il frappe à la porte, il ouvre, tu sais, puis après au noir, et puis après la psy qui regarde le carnet et qui voit que le nom de Nakajima est rayé. Ça aurait été suffisant, quoi.
Exactement, exactement. C'est ce que j'ai pensé. Bon, tu sais, bon, il y a deux choses. D'une part, on pourra envoyer des notes de production à Marvel et à Kevin Feige.
Si jamais ils ont besoin de nous. Ouais.
Voilà, pour les prochaines séries. Et d'autre part, il faut pas oublier que c'est leur première série en tant que Marvel Studios. Et les premiers films, il y avait quand même beaucoup de défauts aussi qui se sont corrigés au fur et à mesure du temps. Et vraiment, ils ont atteint un niveau... Enfin, les films de chaque phase se sont améliorés. Et il a fallu 3, 4, 5, 6 ans pour corriger ces défauts qui étaient évidents. Espérons que ça continuera sur les séries. Et même dans l'ensemble, je la trouve... On parlera peut-être de la série dans son ensemble.
Il faut préciser que cette série a été écrite avant la sortie de... Enfin, en tout cas, avait commencé sa production avant la sortie de la saison 1 de The Mandalorian, et que l'idée d'être complètement affranchi des formats de temps et d'exploiter l'épisodique, etc., n'était pas forcément dès l'origine de l'écriture. Donc, peut-être qu'effectivement... Avec les succès des séries, de WandaVision, de plein de choses, le format va peut-être bouger pour la suite, quoi, pour la deuxième vague de séries qu'on va voir arriver.
Ouais. On conclura sur la série après, mais arrivons donc au gros morceau qui reste, c'est-à-dire la conclusion de Sam Wilson avec Isaiah Bradley. Il y a deux parties. D'une part, quand il va le voir chez lui, encore une fois, il commence à être habitué. Et puis d'autre part, quand ils vont au musée, au Smithsonian, je crois, on peut les diviser en deux parties distinctes presque, je crois. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ces deux parties ?
Alors moi je suis pas très satisfait de cette partie là. J'aimais beaucoup justement ce qu'ils avaient fait avant avec Isaiah et justement cette idée de deux visions un peu irréconciliables d'hommes noirs avec des expériences différentes, tu vois. Et je trouvais que c'était quitté sur quelque chose qui moi me satisfaisait beaucoup plus. Tu vois, pour moi il n'y avait rien en suspens, en fait il n'y avait rien à ajouter. De voir Isaiah devant sa télé avec un peu les larmes aux yeux en voyant le discours de Sam, ça me va. Après je trouve que ça va un peu, c'est too much, quoi. C'est, on veut absolument fermer le truc et je trouvais que ça apportait pas grand chose. Donc on montre que Isaiah quelque part il accepte, il comprend, non seulement il comprend les choix du coup de ça, mais en plus finalement il est convaincu, quoi, quelque part. Et pour moi le musée, ça enfonce un peu le clou. Je comprends pas très bien, tu vois, c'est j'ai l'impression que les auteurs ont voulu faire entre guillemets plaisir à Isaiah, on va lui faire une statue, etc., mais je sais pas si c'est vraiment ce dont ce personnage avait besoin. Il avait pas envie d'être reconnu, tu sais, il voulait pas qu'on sache qu'il existe. Il voulait vraiment s'écarter de tout ça.
Il voulait pas qu'on sache qu'il est vivant parce qu'il savait que quelqu'un viendrait pour effacer l'erreur. Mais le fait que, parce que là, dans le musée, je crois que c'est juste témoigner du fait qu'il y a eu des noirs sur lesquels ils ont été, on a fait ces expériences scientifiques. Mais je pense que dans le musée, ils disent qu'il est mort, Isaiah. Tu vois, personne ne sait qu'il est encore vivant.
Ouais, mais je
Mais je suis d'accord.
Peut-être que c'est mal amené pour moi. Je trouve que ça apporte rien. Tu vois.
Ouais, complètement.
Il aurait montré plutôt un truc sur justement les expériences qui avaient été faites sur les Afro-Américains ou des trucs comme ça. Je trouvais que ça aurait eu beaucoup plus de sens qu'une statue en bronze, tu vois, avec un écriteau à côté.
C'est un peu
un peu maladroit, pas très intéressant, quoi. Mais
Je trouve que la scène chez lui, je trouve que ça passe quand même pour moi. Ouais. Je trouve que tu vois, c'est genre il est quand même renfrogné, mais il se rend compte. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, alors c'est une certaine vision de la chose, mais Isaiah, il a cette attitude là, parce qu'il n'a pas le choix. En fait, il est dans ses retranchements et le système et la vie et la société. On fait que son seul moyen d'être fort, c'est de tout rejeter. Mais Sam montre qu'il a une autre voie possible, parce que lui, il a fait d'autres choix, et il a pu faire ses autres choix, parce qu'il n'a pas le même historique, et il a dit « fuck tout le monde, moi je suis noir, et je suis Captain America, et vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. » Et même à un moment, il dit « tu crois que je ne sens pas les regards sur moi déjà, ce que j'ai trouvé pas mal, mais... » Du coup, je comprends peut-être que Isaiah, voyant ça, se dit, tu vois, il voit une sorte de lueur d'espoir, une sorte de porte de sortie, parce qu'il est bien conscient quand même que lui, sa voix, ça mène nulle part. Tu vois, le fait de toute façon, on pourra jamais rien faire, on pourra jamais rien changer, donc fuck tout le monde. Il se rend compte que ça mène nulle part, mais il a quand même un petit enfant, il a une communauté. Et je pense que le fait, la lueur d'espoir qu'amène Sam, est difficile à complètement réprimer. Tu vois, il ne peut pas se dire « Non, de toute façon, rien va marcher. » Ou
ouais,
il
non,
pourrait, bien sûr. Mais... Et donc, cet aspect un petit peu encore ambigu où à la fin, il dit « Ah, tu sais quoi, I almost bought your bullshit, tu vois, à la fin. » C'est genre « Ok, un petit clin d'œil, un petit sourire, ok. Moi, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon chemin, mais je peux l'accepter chez toi. » Je trouvais ça pas mal. La fin avec le musée, là, ça va trop loin, je trouve. Et c'est vraiment le truc où tu sens... Ils veulent une happy end pour tout le monde. Et c'est dommage.
Ouais, c'est ça.
Il y a USA Judd, il est content, il sautille partout. Isaiah, il pleure de joie devant sa statue. Même si, bon, là encore, on peut comprendre, tu vois, il a vécu ce fardeau, cette douleur, cet effacement de son sacrifice et du sacrifice de ses amis... Je peux comprendre que même si t'es dans la petite antichambre du Captain America blanc, tu vois, le fait que la reconnaissance officielle du monde de ce qu'il a vécu, je comprends que ça puisse lui... C'est une telle charge émotionnelle que je comprends qu'il puisse fondre en larmes. Mmh. Mais en même temps, pour la narration du truc, je trouve ça dommage que ça soit happy end pour tout le monde quand même. Tu vois, c'est deux sentiments ambivalents. Au final, j'aurais préféré que Bradley, comme toi, que Bradley reste, tu vois, cette vision différente de celle de Sam au lieu que tout le monde s'accorde, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, simplement.
Mais oui, mais c'est pas comment dire. Peut-être qu'on a la fin avec le house party, le boat party, qui est plutôt sympa. Là encore, c'est un petit peu happy end, mais plus compréhensible. Je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu
J'ai juste noté que, décidément, Bucky est très à l'aise dans les communautés noires, hein, parce qu'à chaque fois ouais. qu'il finit un film, il est là. Soit au Wakanda,
bah écoute, peut-être qu'il n'était pas à l'aise au Wakanda au début, et puis au final...
Générique, du coup, c'est ça, à ce moment-là. Hein,
générique, et attends, on a oublié Sharon, qu'on a mentionné
c'est la scène...
Ouais.
C'est la scène...
C'est ce qui ouvre sur un truc après. Ouais. Alors, on n'a plus de super soldats, mais je vais avoir accès à tous les secrets du gouvernement américain.
Donc, elle est pardonnée, elle a accès à tout.
Ouais. Et du coup, c'est un gros point d'interrogation sur Sharon Power Broker et à qui elle parle. Bon, peut-être assez. Là encore, c'est un artifice de réalisation. Genre, elle sort du Sénat, c'est du Parlement. Et puis, elle sort son téléphone. Oui, allô, je vais maintenant expliquer au public ce qui est en train de se passer là. Tu vois, c'est vraiment. Mais bon, c'est vraiment de l'exposition 100%. Alors, c'est qui elle parle? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce que c'est une Skrull? Est-ce qu'elle prépare Armor Wars? Est-ce que c'est Secret Invasion? Est-ce que c'est quoi?
Est-ce que c'est Mephisto?
Est-ce que c'est Mephisto, possiblement?
C'est ça, la vraie question. Est-ce que c'est une Skrull? Ça, c'est une bonne question. Je trouverais ça quelque part un peu nul.
Ouais.
Parce que sinon, ça, c'est facile, quoi. Tu prends n'importe quel personnage, tu les dupliques et tu fais croire qu'ils sont, tout d'un coup c'est un méchant, etc. Ouais. Et puis, non, il enlève son masque. Et puis, Donc non, je trouvais ça un peu nul, mais bon, Pop Sharon, en même temps, j'ai un peu du mal à comprendre sa trajectoire quand même. Parce que,
bah là encore,
après, j'ai pas forcément un gros souvenir d'elle, mais j'ai l'impression que c'était quand même une très gentille, quoi, tu vois.
Bah, elle était très très gentille, la nièce de Sharon, de Peggy Carter. Et puis elle est allée. Ce qui s'est passé, c'est dans Civil War, elle redonne l'équipement à Steve et Sam. Et donc elle a été pourchassée par le gouvernement américain. Elle a été, c'était une traître. Mais que à ce point qu'elle devienne une sorte de criminel mastermind, c'est.
Elle avait
alors
été
peut-être qu'ils vont.
En plus.
Pardon.
Elle avait été snappée, elle. Donc ça veut dire qu'elle a eu, elle a fait tout ça.
Mais on ne sait pas si elle a été snappée. Je crois pas. Hein.
Ah, elle était dans les fiches, tu sais, quand ils voient les portraits des gens qui ont disparu, etc. Ah, ouais, après, tu me dirais, elle aurait pu juste disparaître et du coup,
oui,
savoir où elle est et il la compte dans les snappés. Mais...
Exactement,
ouais,
exactement.
Elle était comptée parmi les snappés.
D'accord. Mais même, tu vois, il faudrait... Alors, tu vois, le truc, c'est qu'ils sont tellement malins chez Marvel qu'ils réussissent à tout justifier.
Oui.
A posteriori, ils font des sortes de retcon. Mais sur elle, puisqu'elle va rester et que ça va clairement être l'un des ressorts scénaristiques pour un des trucs qui va arriver, il faut qu'on justifie ce revirement, quoi. On ne l'a pas beaucoup vu, donc on pourrait encore le croire. Mais il y a beaucoup d'inconsistencies. Ils ont même tué son scientifique hyper important... Et c'est elle qui les a amenés à ce scientifique, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle recherchait, tu vois ? D'accord, elle voulait qu'il pense qu'elle était gentille, mais dans quel but ? Elle aurait très bien pu dire « Ah merde, je sais pas où il est, je vais essayer de vous aider », et puis elle n'y arrive pas, tu vois ? C'était...
Ouais, c'est vraiment bizarre.
C'est bizarre.
C'est vraiment très bizarre, ouais. Du coup, je pense pas que ce soit une Skrull, en y réfléchissant, hein, parce
non,
que...
Non, je crois pas non plus.
Déjà, je pense que les Skrulls, ils ont capacité à être directement au gouvernement, puisqu'ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. Ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un qui était en cavale avec un plan alambiqué pour être réintégré et machin. Donc, je pense
mais
pas.
Peut-être.
Mais...
Attends, j'ai une idée tout à coup. Peut-être qu'elle est au courant qu'il y a l'invasion des Skrulls et qu'elle ne peut faire confiance à personne, y compris au gouvernement. Et que donc, elle est en train d'organiser un truc, peut-être même avec Nick Fury, pour essayer de se préparer pour Secret Invasion, pour aider contre l'invasion des Skrulls.
Ouais, non, mais pourquoi pas. Hein.
ça pourrait coller, peut-être. Bon, donc voilà, je crois que c'est tout. Quelques mots sur la série, non ?
Ouais, moi, je voulais juste ajouter que, du coup, dans le générique de fin, le Falcon de Falcon and Winter Soldier s'est remplacé par Captain America. Et du coup, c'est dans le générique de fin, c'est Captain America and the Winter Soldiers.
Ah, j'avais pas vu. D'accord.
Ouais, ouais.
J'avais pas
et
fait
du
attention.
Coup, dans la foulée, ont été annoncés, du coup, la production d'un film, Captain America 4, avec,
tout à fait,
du coup, Sam Wilson.
Tout à fait. Ouais, ce qui est et qui sera écrit ou géré par le showrunner de la série. Donc, on verra ce que ça donnera, mais j'ai très hâte de voir un film Captain America avec effectivement Captain America noir, Sam Wilson. C'est ça. Du coup, la série a fait le job, même si c'est pas une série stellaire, et je l'ai trouvé au final. Moins bonne que WandaVision, elle m'a moins tenu en haleine, elle était moins bien écrite au final. Ça a fait le job parce que j'ai très très hâte de retrouver Sam Wilson et Bucky. Et d'ailleurs...
Ouais, et puis ils sont trop bien tous les deux, quoi.
C'est ça. Là aussi, elle a fait le job pour
la
ça.
La révélation,
c'est que
pour moi. Hein, ouais.
La relation entre les deux, pour le coup, maintenant, elle est complètement justifiée. C'est des potes. Et tu t'attendais presque à les voir s'embrasser. Tu vois, à la fin, ils s'en allaient vers le soleil couchant. C'était un petit peu comme toi et moi, en fait, dans Super Laser Match.
Ouais, donc, et en fait, j'ai appris qu'ils étaient super potes dans la vraie vie, en fait, ces deux acteurs.
Ah oui, d'accord.
Au point de se demander s'ils allaient se confiner ensemble et tout, aux annonces de confinement, apparemment.
D'accord.
Et du coup, je trouve que ça se voit, en fait. Tu vois, clairement, je trouve qu'il y a une super bonne alchimie. Les scènes où ils s'entraînent au bouclier, enfin, tout ça, je trouve que toutes ces scènes, elles fonctionnent super bien. Et ouais, clairement, là, la relation, je trouve qu'elle a pris vachement d'importance pour moi, alors que j'étais pas fan ni de l'un ni de l'autre. Et voilà, hormis leur petite blague à l'arrière de la voiture, je crois que c'était Civil War.
C'est ça.
Voilà, ça m'avait pas, c'était pas des choses, des gens qui comptait pour moi, en tout cas en tant que personnage. Et là, cette série a réussi ça en fait. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est l'utilité de ces séries-là. Ça permet justement de construire des personnages qui normalement voilà, n'ont pas le temps à l'écran. Et là, pour moi, c'est objectif rempli à 100%. Et dans cette optique-là, je pense que en tant qu'objet dans le MCU, je pense que je préfère cette série-là à WandaVision, même si, comme toi, j'étais quand même plus à fond dans WandaVision chaque semaine, etc. Là, je trouve qu'en termes de construction d'univers, en tout cas de construction de personnages, etc., j'ai trouvé ça vraiment top. Et voilà, moi, ça, c'est vraiment super positif, du coup, au final, quoi.
Bah, je crois que c'est une bonne conclusion, hein. Je suis complètement sur la même ligne, et ça veut dire sans doute que le job le plus important de la série, même s'il y a des incohérences et une construction un petit peu boiteuse parfois, bah, c'est celui-là, et donc mission accomplie, je crois. Donc, je ne sais pas si on va pas mettre de notes à la série, mais plutôt satisfait, on va dire. Ouais. Et du coup, la question difficile de qu'est-ce qui se passe ensuite pour le MCU et pour nous, on n'a pas vraiment discuté de ce qu'on allait faire dans les périodes de creux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en juillet Black Widow, le film qui arrive, c'est le 9 juillet, je crois, donc on en parlera évidemment à ce moment.
Le 19 juillet, et avant ça, il y a la série Loki qui aura commencé.
Ah, elle commence finalement, c'est avant, d'accord.
Donc, il me semble bien, ouais.
Bah, on viendra, évidemment, on revient pour Loki, c'est en juin du coup, Loki
c'est en juin.
9 juin ou quelque chose comme ça. J'avais l'impression que c'était le 9 juillet, Black Widow, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être le 19. Et donc, ça fait quand même une longue période de quoi, presque 2 mois entre les deux. Peut-être qu'on fera des trucs entre-temps, je sais pas quoi. Si t'as des idées, on pourra en discuter. On va y réfléchir. Et puis, dans tous les cas, on sera de retour pour Loki et son TVA, ses affaires avec la TVA, la Time Variance Authority et Owen
Peut-être
Wilson.
Peut-être du multiverse pour de vrai cette fois-ci.
Exactement. C'est bien ce qui semble. Et elle avait l'air, le trailer que j'ai vu avait l'air assez cool. C'est un mélange action et puis le personnage de Loki de. Comment il s'appelle déjà l'acteur? Je sais plus. Tom Hiddleston, exactement, qui est vraiment formidable. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mec, Tom Hiddleston. T'as déjà vu des photos de lui pas en Loki?
Oui.
Mais c'est une bombe, ce mec. Et en Loki, alors il est pas moche en Loki, mais il est déjà... Mais en vrai, entre guillemets, il est encore mieux, quoi. Bref, ça m'a frappé tout à coup. Il est beau, mec. Donc voilà, bah, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour les aventures de ces deux premières séries et on continuera avec la suite. Johan, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi?
Alors, on peut me retrouver sur Twitter à johant_, où je tweete plein de bêtises. Notamment moi qui imite des bruits de voitures.
Mais c'est vraiment toi qui le fais, ça?
Je vais laisser planer le doute, Patrick.
C'est pas possible, je n'y crois pas. Fais-le moi maintenant tout de suite.
Ah, je suis piégé.
Et voilà, la vérité est révélée. Donc vous pouvez aller voir de quoi on parle sur Twitter, Johan _. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous avez notepatrick.com pour suivre tout ce que je fais, tous les podcasts et aussi le lien vers le Discord, par exemple, où on discute de toutes ces histoires et de plein d'autres choses également. Vous pouvez aller y faire un petit tour, c'est hyper sympathique. Et bah, c'est tout. Comme on le disait, on aura le temps de faire un autre épisode sur quelque chose sur le MCU comme ça. Peut-être, tiens, des comics à lire pour attendre l'arrivée. Ça c'est une bonne idée. Ouais. Peut-être un truc comme ça. Et vous devez rester accroché au flux de Super Laser Punch. Et dans tous les cas, on sera de retour pour Loki dans quelques semaines. On vous fait de grosses bises à tous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao pour un prochain Super Laser Punch. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.